La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Bonjour et bienvenue au programme du Club de la Tête au Carré ce vendredi. De la cuisine haute en couleur, un voyage virtuel dans des cités millénaires et des poisons à l'efficacité redoutable. Je vous présente les invités de ce club dans un instant. La Une de la Science avec Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, vous vous intéressez à l'impact de la pollution sonore sur les cétacés.
Oui, dans l'Atlantique, les dauphins sont obligés de hausser le ton et de simplifier leur message pour continuer à discuter au milieu des bateaux. On en discute dans un instant.
Vous pouvez réagir sur Twitter avec le mot-clé L'Attaque. Cette émission est réalisée par Fanny Bohuon. Elle a été préparée par Benoît Tonson et Lucie Serfati.
La tête au carré. Le club. Avec Daniel Fievé sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré ce vendredi, Sophie Neuville, Raphaël Aumont, Yves Hubelmann et Sophie Bécherel. Bonjour et bienvenue à tous les quatre.
Bonjour.
À Raphaël Aumont, vous êtes physico-chimiste et vous publiez Les couleurs de la cuisine aux éditions Duno. Avant de déguster un plat, ces couleurs nous en disent beaucoup sur ses qualités gustatives, c'est l'idée?
Et oui, on mange d'abord avec les yeux, alors ça méritait bien un livre et expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi on va conserver des couleurs, pourquoi des couleurs vont apparaître, pourquoi ça s'oxyde, pourquoi un homard bleu va devenir rouge dans sa casserole et plein de choses comme ça.
Pourquoi le sucre blanc va devenir brun
en se caramélisant. Voilà. Il y a plein de belles choses en cuisine, il fallait faire un livre là-dessus.
Ouais, on en sait un livre d'avance. Sophie Bécherel, vous êtes allée visiter l'exposition Cité millénaire à l'Institut du Monde Arabe. C'est à la fois votre coup de cœur et aussi un petit coup de gueule.
Oui, une exposition numérique sur un patrimoine archéologique englouti, vous en avez peut-être entendu parler. Une expérience visuelle exceptionnelle pour ne pas oublier ce que furent Palmyre, Mossoul, Alep ou Leptis Magna, victimes de la guerre. Yves Hubelmann est président de la start-up Iconem. C'est lui qui nous propose cette exposition sans œuvre. C'est ça?
Bonjour, oui.
Alors, pas d'œuvre.
Effectivement, donc c'est une déambulation poétique en fait à travers donc les sites historiques majeurs du Proche-Orient qui témoignent de la richesse au moyen de projections monumentales. Donc c'est des images, on traverse des images et on a quatre sites. Le premier site c'est Mossoul, après Alep, après on va aller à Palmyre et à Leptis Magna en Libye. L'idée c'est de donner à voir déjà la richesse de ces sites, hein, la richesse culturelle de ces sites, mais aussi leur destruction.
Voilà, et c'est aussi mon coup de gueule,
oui,
parce que ce
gueule,
résultat remarquable se visite dans des conditions exécrables, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est bien, c'est un succès, mais la jauge n'est pas respectée.
Très bien. Et puis nous irons explorer le monde des poisons et des venins avec vous, Sophie Neuville. Vous êtes médiatrice scientifique au Palais de la Découverte à Paris, où s'est ouverte l'exposition Poison, exposition qui présente de nombreux animaux venimeux vivants. Quel genre de spécimens on peut croiser dans votre exposition?
Eh bien, on peut croiser les magnifiques grenouilles d'Androbate bleu, ou bien le crotal de l'Ouest, le diamantin de l'Ouest qu'on peut voir dans les westerns, ou certaines migales aussi.
Le mamba noir, la vipère du Gabon. Ouais. Bon, tout ça est quand même bien encadré, hein, évidemment. Est sécurisé. Et puis nous verrons que certains poisons sécrétés par ces animaux peuvent servir à élaborer de nouveaux médicaments. Voilà pour les sujets du club aujourd'hui. Et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de La Tête au Carré. Axel Villard pour la Une de la Science. Nous partons plonger dans le brouhaha de l'océan Atlantique.
Oui Daniel, mais pour commencer, je voulais vous proposer une petite expérience. Imaginez que vous cherchiez à commander à boire dans un bar très bruyant. Quelle stratégie allez-vous mettre en place?
Alors, je hurle, je pense.
C'est tout?
Déjà, c'est un début de solution.
Alors moi, je vous propose de vous rapprocher d'abord du bar au maximum, de parler fort, bien sûr, et par mots-clés, des mots très simples pour maximiser la compréhension du barman. Et c'est ce que font les dauphins, les grands dauphins dans l'Atlantique, pour continuer à communiquer au milieu des bateaux. C'est une étude américaine menée au large du Maryland qui le démontre. Et nous en discutons avec vous, Olivier Adam. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bioacousticien et professeur à Sorbonne Université. Alors, c'est pas la première fois qu'on démontre l'impact du bruit sur ces animaux, mais par contre, c'est une des premières fois où on montre une adaptation sociale à ce problème.
En fait, il y a trois possibilités. Hein. Soit vous levez le ton, c'est-à-dire vous criez plus fort, donc ça c'est très bien. La deuxième, c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont changé de fréquence, ouais. Puisque les bateaux, c'est plutôt des très basses fréquences, aux alentours de 100 Hz et 100-300 Hz. Et du coup, en élevant un petit peu les fréquences, en passant un petit peu plus aigu, on arrive mieux à transmettre l'information. Mm-hmm. Et la troisième chose, c'est de se rapprocher. Parce qu'en fait, les dauphins vivent en groupe, d'accord, ils sont extrêmement sociaux, ils ont construit leur société en groupe. Et donc, s'ils veulent communiquer, il n'y a pas que le son, mais en tout cas, s'ils veulent transmettre l'information avec le son, ils se rapprochent et donc ils vont pouvoir s'entendre. On peut avoir des solutions pour parler dans un brouhaha, et vu que les océans c'est un open space, ouais. Dès qu'il y en a un qui commence à faire du bruit, tous les autres essayent pour se faire entendre, trouver des solutions pour s'adapter.
Mais alors on voit, ils s'adaptent, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des conséquences à ce nouveau mode de communication au sein du groupe ?
Alors ça a été constaté depuis la fin des années 90, hein, c'est pas tout à fait nouveau, mais effectivement on trouve des solutions parce que ce sont des mammifères, d'accord ? Les cétacés sont des mammifères supérieurs, et donc ils vont s'adapter, ils vont trouver des façons de faire différemment pour pouvoir répondre à une contrainte, et cette contrainte qui est le bruit, et qui est, là vous parlez de l'Atlantique Nord, mais on peut le généraliser au monde entier, on peut aller voir des sites maintenant, parce que tous les bateaux industriels, enfin maritimes, peuvent être suivis directement sur Internet, en fait, et on voit qu'il y a des grandes autoroutes qui sont fréquentées, donc il y a du bruit partout dans les océans, plus dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, mais on peut généraliser ça.
On peut pas essayer d'imaginer les conséquences. On parlait tout à l'heure de se rapprocher, est-ce que le fait de devoir être plus proche va pas changer la manière de chasser ou de se reproduire ?
Alors, sur les activités vital, c'est évident, d'accord. En fait, il suffit de faire l'information. C'est-à-dire, soit vous êtes dans votre campagne, au milieu des oiseaux, pour vivre votre vie de façon un peu plus correcte, on va dire tranquille. Soit vous êtes à côté de l'autoroute du Sud, par exemple, un jour de grand départ, et donc le niveau stress est un petit peu différent. On comprend bien que s'il y a une activité bruyante, il y a potentiellement un danger parce qu'ils peuvent se faire percuter par les bateaux. Mmh. Il y a des collisions qui sont systématiques, et du coup, leurs activités vitales vont être différentes parce que faites dans le stress. Et l'activité vitale, c'est se déplacer, se nourrir, se reproduire, et puis dormir. Quand on dort à côté de l'autoroute A6, c'est pas pareil qu'en Bourgogne.
Donc on entend qu'ils s'adaptent, et en même temps que peut-être la pression est de plus en plus forte et que l'adaptation a ses limites, c'est ça qu'il faut comprendre ?
Oui, complètement. Là, le fait qu'ils s'adaptent et le fait qu'il va y avoir une habituation, ça veut pas dire que nous, il faut qu'on fasse plus de bruit. Ouais, d'accord, là, en 2018, on a un système de régulation, d'accord, régulation des activités économiques, et forcément, ça va se décliner sur en mer et sur les océans, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire pour diminuer le bruit. On va pas arrêter le trafic, on va faire en sorte que, comme on a fait pour nos voitures, par exemple, il y a 10 ans, nos voitures faisaient plus de bruit qu'elles le font en 2018. Et ça, c'est des régulations qui sont amenées par les politiques, mais c'est aussi des régulations qui sont amenées par le système économique, parce que les constructeurs, ils tendent aussi vers une conscience environnementale.
Alors, Olivier Aladon, on a parlé des dauphins, mais comment réagissent, par exemple, les baleines, les belugas, les autres animaux ?
Alors, il y a plein d'études différentes qui ont commencé dans les débuts des années 2000, où on a vu qu'il y avait des fois des échouages à cause des activités humaines. Donc on a commencé à observer et à regarder quels étaient les changements de comportement. C'est très récent, hein, parce qu'il y a un consortium de laboratoires internationaux qui s'est créé en 2010, d'accord ? Donc on n'est pas super en avance, mais on avance. Et donc du coup, on s'intéresse au comportement, parce que c'est ça l'idée. C'est-à-dire que si vous faites du bruit, après c'est de savoir comment les cétacés vont réagir par rapport à ce bruit. Et donc ça peut aller à quelque chose de très dur comme l'échouage, par exemple, là c'est la mort, ou simplement à des modifications qui peuvent être cruciales pour les activités vitales, et puis d'autres qui sont plus simples. Alors, par exemple, dans le trafic maritime, certaines baleines comme les grands rorquals, par exemple, s'éloignent, d'accord, des bateaux, parce qu'ils les entendent à l'avance, et puis manifestement ils sont inquiets, probablement, et donc ils ont tendance à s'éloigner. Donc chaque espèce, il y a 89 espèces de cétacés, ou 90, pour résumer, et vont toutes réagir différemment, d'accord. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est compliqué aussi à mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas généraliser avec une seule observation, il faut qu'on puisse voir différemment. Alors, ce que fait ce consortium-là, et d'ailleurs, il y a une Française qui s'appelle Charlotte Curé à CEREMA qui fait un travail exceptionnel là-dessus, c'est qu'ils font du playback. C'est-à-dire qu'ils arrivent vers une zone, ils mesurent, ils observent plus ou moins un cétacé à distance, ils regardent ce qu'il fait, son comportement, etc. Et après, boum, on envoie un son, on diffuse un son, et on regarde s'il a modifié les comportements. Ils ont fait ça sur le cachalot, ils ont fait ça sur les globicéphales, les orques, les baleines à bosse. Et par exemple, pour les baleines à bosse, elles se sont éloignées de la zone où il y avait du bruit.
Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'on sait faire des bateaux qui font moins de bruit ?
Ah bah oui, nos marines, enfin les militaires par exemple, ils savent faire des bateaux avec un minimum de bruit pour pas être détectés. Donc en fait, le passage, je dis pas qu'il va falloir qu'on prenne toutes les mesures qu'ont développées les militaires sur tous les bateaux industriels, mais au moins une partie, et des choses qui sont évidentes en termes d'hélices, parce qu'il y a des hélices qui sont un rendement meilleur et qui font moins de bruit. Donc on se dit, alors pourquoi vous le faites pas ? Bon, ça coûte un peu plus cher, mais vu que de toute façon c'est nous qui allons payer, ça va pas changer grand chose pour les armateurs.
Alors les militaires le font, mais pas spécialement pour protéger les dauphins. dauphins, on imagine. Est-ce que vous êtes entendus, vous les scientifiques, par tous les marins qui prennent la mer et qui n'ont pas forcément ça en tête dans leurs priorités?
On a tous notre rôle à jouer, d'accord? Nous, les scientifiques, on est là pour observer, on est là pour proposer de nouvelles connaissances, on est là pour faire des articles qui indiquent ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'on a cette connaissance-là, c'est pas à moi d'aller écrire un article de loi sur ce qu'il faut faire. Ça, c'est le rôle des politiques. Mais le rôle des acteurs économiques aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont une conscience environnementale, comme par exemple les gestionnaires de grands ports, ils peuvent très bien faire des prix d'accès aux ports en fonction de la vétusté des bateaux ou de la pollution sonore des bateaux.
Merci, Olivier Adam, d'être venu nous renseigner sur ces dauphins. Et merci à vous, Axel. À bientôt.
Merci, Daniel.
Merci.
Sauce au beurre blanc, pain noir et légumes verts. On s'intéresse aux couleurs de la cuisine dans un instant.
Cousin, papa, cousin là, cousin. Cousin, papa, cousin là, cousin, papa, petit machin manga. Cousin, papa, petit machin jumbo. Cousin, papa, petit machin meltin. Cousin, papa, cousino. Cousin, cousino, cousino. Cousin de coton qui peut faire l'effet. Cousin de maman veut qui manga. Cousin, papa, cousine, cousin.
C'était Cousin Mélissa Lavaux sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Le club de la tête au carré en compagnie de Sophie Neuville, médiatrice au Palais de la Découverte, Yves Hubelmann, président d'Iconem, et Sophie Becherel de la rédaction de France Inter, et aussi Raphaël Aumont, chercheur en physico-chimie des matériaux à l'université Paris-Saclay. Il vient de publier Les couleurs de la cuisine aux éditions Duno. Dans vos précédents ouvrages, vous vous étiez intéressé, Raphaël, aux textures, puis aux parfums et aux saveurs, et cette fois, vous nous régalez avec les couleurs. La première dégustation d'un plat se fait avec les yeux.
Il m'arriva sous la forme d'un bel anneau d'opale, frais démoulé, posé sur un coulis rouge sombre. Île de corail, sur fond de coucher de soleil. J'avais peur de répandre le coulis sur la gelée d'amande. Son lys laiteux, son contact si doux, me ravir. Ce devait être comme ça, de s'évanouir, comme de toucher du bout de la langue un blanc mangé au lait d'amande.
Donc ce blanc mangé, il a surgi un jour au restaurant. Alors là, c'est une blancheur vraiment totalement satisfaisante. Celle-ci, elle est parfaite. Et alors évidemment, le coulis de fruits rouge, j'ai pensé au plaisir des cueillettes comme les framboises ou les mûres. Autour d'Arcachon, il y a énormément de mûres. Et d'ailleurs, c'était un jeu entre le rouge sombre, presque noir, et le blanc, puisqu'elles se cueillent au bord de la mer, dans des chemins de sable. Très blanc.
Chantal Thomas dans l'émission De bouche à oreille sur France Culture consacrée aux nourritures de l'enfance. Raphaël Aumont, toute la puissance d'évocation d'une couleur avant même d'avoir commencé à goûter. Hein.
Mais c'est ça, on mange avec les yeux avant de manger, d'avaler et d'ingurgiter l'aliment. Et surtout, ça éveille, ça amène un voyage. Et manger, c'est vraiment tous les sens qui sont en éveil. Et c'est important pour moi de parler... Après avoir parlé des textures et puis des odeurs et des saveurs, il y a parlé de la couleur. Effectivement, vous avez une sauce qui arrive, qui est un peu brillante, qui est marron. Ça y est, on sent déjà que ça va être un peu collant, un beau caramel. Enfin, on part déjà dans la dégustation avec les yeux.
On peut aussi juger de la qualité du travail du cuisinier en se basant sur la couleur de ce qu'on a dans l'assiette.
Oui, moi je suis convaincu que couleur juste, goût juste et cuisine juste. Parce que, par exemple, vous coupez une pomme, très vite elle oxyde chez soi, elle devient brune. Alors il y a des astuces de mettre un peu d'acide ou un peu de jus de citron, des choses comme ça. Mais très vite, on va sentir ce goût de jus de citron. Et si on arrive dans un restaurant et qu'on voit une julienne de pommes qui n'a pas de goût de citron, on peut se dire, tiens, le cuisinier, il vient juste de la couper presque pour moi, à l'instant. Et donc, c'est une cuisine de l'instant qui va être beaucoup plus respectueuse aussi en termes de saveur.
Un poisson bien cuit, c'est quelle couleur, par exemple?
C'est translucide, un peu. Enfin, là, il faut aller au Japon, par exemple, pour avoir la maîtrise parfaite des cuissons de poisson. C'est le rosé à l'arête. Moi, j'aime pas ça parce que ça veut dire qu'il y a encore des pointes de sang, mais il est juste blanc, un peu laiteux. Très transparent, un peu comme un blanc d'œuf juste cuit. On a trop l'habitude d'un œuf qui est complètement trop cuit, on voit plus à travers. Un blanc juste translucide est beaucoup plus intéressant en bouche.
Ouais, alors, notre perception des goûts et des saveurs est influencée hein, par la couleur. D'ailleurs, les industriels l'ont bien compris. Hein. C'est pas pour rien qu'on met du colorant vert dans le sirop de menthe, parce qu'on a l'impression que ça a le plus...
Que la menthe c'est vert, voilà. Exactement. Il y a plein de choses comme ça, et c'est ce que je dénonce aussi à travers tous ces pas mal d'exemples. Ouais. Vous regardez les olives, par exemple, c'est quand même assez hallucinant de vous acheter des olives noires. Premier prix, sont des olives vertes qui sont teintées en noir. Ouais. Voilà, pour nous faire croire que c'est l'olive.
Alors que normalement, l'olive noire, la vraie, celle qui n'est pas teintée,
c'est une olive verte qui va mûrir, mais qui va prendre du temps. Ça va prendre 3-4 mois et puis ça va être fluctuant de la saisonnalité. Donc forcément, ça a un coût. Mais le problème, c'est que le noir de cette olive qui a fermenté, qui a oxydé, elle est extrêmement savoureuse. C'est pas du tout une olive verte pas mûre qui était fade, qui va être colorée, aromatisée. Voilà, on peut duper facilement les gens. Donc c'est ça aussi qu'on dénonce.
Il y a aussi quelques idées reçues hein, sur les couleurs. Par exemple, vous faites une comparaison entre le pain noir et le pain blanc, le pain noir qu'on pense pour les pauvres,
exactement,
mais qui est en fait beaucoup plus riche.
Et beaucoup plus riche, parce que pourquoi il est noir? Parce qu'il y a plein d'oligo-éléments, de nutriments, de choses comme ça, c'est un pain complet. Mm-hmm. Et il faut surtout jamais éviter de manger des sucres raffinés, des farines raffinées, qui vous apportent rien, si ce n'est du saccharose gratuit ou des amidons purs, et donc on grossit bêtement avec du pain blanc, par exemple.
Sophie Bécherel.
Oui. Comment fait-on des meringues avec du sucre qui n'est pas raffiné?
Alors, il vous suffit de prendre, par exemple, de la cassonade.
Oui, mais ça ne donnera pas le blanc de la meringue qui est si joli.
On peut pas tout avoir. C'est-à-dire que là, il y a moyen. C'est une histoire de compromis.
Ah, là, il est chimiste, il est pas magicien.
Non, il y a des limites à ça. Parce qu'effectivement, on veut souvent le beurre, l'argent du beurre, et puis en plus ne pas grossir et donc prendre du beurre allégé, mais sans additifs. Vous voyez, c'est un peu le truc. Donc, on peut pas tout avoir. Par contre, le fait de, quand vous allez monter cette meringue, vous allez incorporer pas mal de bulles d'air, et donc ça va blanchir naturellement. Le jaune d'œuf, vous le blanchissez très facilement, rien qu'en mettant de l'air.
C'est ce qui explique qu'une mayonnaise plus fouettée devient de plus en plus blanche.
Devient de plus en plus blanche, mais elle n'a pas le même goût. C'est-à-dire qu'il y a un lien magique et intime entre la couleur et les saveurs. Vous prenez une mayonnaise peu battue, elle va avoir goût un peu de jaune d'œuf, ou si vous avez mis un peu de vinaigre ou un peu d'arôme, ce sera les arômes un peu aqueux. Si vous la battez fortement, vous allez séparer les gouttelettes d'huile, elle sera plus blanche, elle tiendra mieux, mais elle aura plus goût d'huile. Ça peut être intéressant, Noël va arriver, avec l'huile de truffe par exemple. Vous pouvez mettre un peu moins d'huile de truffe, mais elle sera meilleure si vous la battez plus. Et ça, c'est la couleur qui va nous renseigner aussi directement sur la texture et les saveurs.
Il faut savoir cuisiner à l'œil.
Mais vous regardez, moi j'ai la chance de travailler avec Thierry Marx et puis d'aller dans ses cuisines. Et vous regardez les cuisiniers, ils n'ont pas de thermomètre. Et ils savent exactement, là le sucre il est à 121 degrés, il est à 124 degrés. C'est à l'œil qu'ils travaillent. Mmh. Et c'est un empirisme presque rationnel, quoi, grâce à la couleur.
Alors, il y a aussi comment garder une couleur. Par exemple, un légume vert, bien vert, évidemment, c'est un légume bien cuit. Mais alors, comment on s'y prend? Là aussi, vous donnez des petits conseils.
Oui, il y a plein de petites recettes aussi dans ce livre-là. C'est-à-dire que, pareil, vous regardez les haricots ou des brocolis, s'ils sont bien verts, ça veut dire qu'ils n'ont pas été trop cuits. Donc, on va garder les nutriments, on va garder les couleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une approche aussi santé. Mmh. manger coloré, c'est bon pour la santé. Ça, ouais. C'est des choses qu'on entend. Et c'est vrai parce que vous allez diversifier les couleurs. Donc, vous allez diversifier les pigments. Et les pigments, c'est quoi? C'est des antioxydants. Et c'est très, très bon pour la santé. Donc, si vous prenez un haricot qui est vert, c'est intéressant. Si vous prenez ce haricot qui est marronasse, bah, déjà, on sait qu'il a été abîmé, il a été oxydé et c'est moins bon pour la santé.
Mais alors, comment on s'y prend? Vous dites, alors, il y a ces idées, hein, qu'on met beaucoup de sel dans l'eau, qu'on refroidit avec des glaçons juste à la fin de la cuisson.
Ah, alors, bicarbonate. Là, la bonne idée, c'est la bonne astuce. Exactement. D'habitude, c'est l'astuce de grand-mère, mais là, vous n'êtes plus une grand-mère. Mais voilà, ça, c'est la bonne astuce de mettre un tout petit peu de bicarbonate. Ouais. Et l'intérêt du bicarbonate de sodium, en plus, c'est que ça va saler naturellement l'eau. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter du sel. Et ça va permettre surtout d'éviter de mettre à bouillir. Et donc, vous allez pouvoir cuire des légumes avec un peu de bicarbonate à 80 degrés. Et vous allez garder les vitamines, garder les saveurs et avoir une belle couleur appétissante.
Donc là, c'est le conseil. Un peu de bicarbonate et on garde ces légumes verts, bien verts.
C'est l'histoire de la carotte Vichy aussi, avec le bicarbonate.
Alors, c'est quoi l'histoire de la carotte
Vichy? Parce que c'est, historiquement, c'est ça. C'est-à-dire, ce bicarbonate, il était trouvé pour cuire plus facilement ces vieilles carottes un peu d'hiver qui étaient très, très dures. Ouais. Et en mettant un peu de bicarbonate, vous allez attendrir le légume et ça va améliorer sa cuisson.
Ouais. Un changement de couleur qui vous plaît tout particulièrement, c'est le caramel. Vous avez une véritable passion. Alors, on part d'une molécule unique, le sucre blanc.
C'est magique. Et je trouve que d'un point de vue chimique, c'est quand même assez merveilleux. On parlait du sucre justement. On prenait une molécule, c'est le saccharose, et vous allez la chauffer. Et ça va commencer à se couper, à se casser, à se rassembler, à se recasser, etc. Et vous allez arriver à la fin à 150 molécules au moins. Il y a encore des thèses là-dessus.
Il y a des thèses sur le caramel.
Ah mais ouais, parce que c'est toujours pas élucidé. Ça dépend de la température, de l'hygrométrie, ça dépend de plein de choses. Et donc d'une molécule, vous arrivez à 150. Parmi elles, il y a des pigments. Et puis, il y a des colorants, des pigments noirs, et puis des saveurs différentes. Et c'est extrêmement varié comme, et on comprend pas toujours ce qui se passe encore. C'est assez magique.
Alors, là encore, vous mettez un petit coup aux industriels qui savent tricher sur le caramel.
Ça, c'est terrible. Ouais. Parce que vous allez trouver notamment dans les sodas, vous avez une couleur caramel. Et si vous regardez, vous avez E150. Alors, E150, c'est caramel pur. Donc, c'est le caramel qu'on peut faire chez soi. Mmh. Sauf qu'il porte le code 250 parce que E, ça veut dire Europe. Sauf que des fois, on peut trouver du E150D ou E150. C'est des petites subtilités, sauf que ces petites subtilités, c'est qu'on va pas prendre du vrai sucre, on va prendre des dérivés de saccharose, des fibres, tout un tas de résidus. On va les mettre à cuire et pour que ça caramélise plus vite, que ça change la couleur, et on va rajouter de l'ammoniac, on va rajouter des sulfites, on va rajouter tout un tas de cochonneries. Mmh. Et là, on est en train de manger des choses qui sont vraiment pas bonnes pour la santé. Ouais. Donc oui, il faut dénoncer aussi tout ça.
Ouais, alors le mieux, c'est de faire son caramel au beurre salé soi-même. Un petit conseil de recette.
Alors caramel au beurre salé, moi je vous conseille de démarrer tout de suite avec un peu de sucre et mettre le beurre dès le début, parce que vous allez, en plus de la caramélisation, les protéines dans le beurre vont réagir avec les molécules de sucre, et donc là vous allez faire en plus des réactions de Maillard, et donc vous allez avoir des goûts extrêmement intéressants que si vous faites un caramel et après vous allez mettre le sucre, le beurre dedans. Donc changez, vous allez voir, c'est très très intéressant. Cuisez tout doucement.
On s'y met dès ce week-end,
bien sûr. La réaction de Maillard fameuse.
La fameuse.
Elle intervient aussi dans la cuisson de la viande, la réaction nombreux,
bien sûr, c'est ça qui va expliquer le côté, d'abord les biscottes aussi, le pain, le café, et on parle du café aussi dans ce livre-là, dans certains thés aussi qui sont un peu chauffé, et puis évidemment dans les viandes, le grillé, saignant, à point, bien cuit, tout ça c'est qu'une affaire de réaction de Maillard.
Mmh. Une dernière question, le cordon bleu, pourquoi on appelle
cette viande le cordon bleu.
Bleu.
Ça m'avait amusé, j'ai fait ce livre avec plusieurs chapitres un peu l'arc-en-ciel, et c'est vrai que bleu, il n'y a pas grand chose de bleu en cuisine, parce que les gens veulent pas manger de bleu ou ça fait peur, et le cordon bleu, on trouve ce truc-là. Alors, cordon bleu, l'histoire c'est que c'était une escalope, et pour la souder, en fait, on mettait une ficelle bleu pour la retrouver peut-être dans la panure. On cuisait et on avait ce fameux cordon bleu. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un produit très très dégoûtant de l'agroalimentaire. Donc faites-le vous-même, c'est très très facile à faire.
Merci Raphaël Aumont. Votre livre s'intitule « Les couleurs de la cuisine ». Il vient de paraître aux éditions Dunod. Dans un instant, nous partons pour un voyage virtuel dans des cités millénaires arabes en péril aujourd'hui.
She was your light. Then she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back. For the first time in your life, you felt alive. Money only means you care. You better cry, man. You better love, man.
the dime goes and takes the lead. After a while, yeah, she had to go in another country, away from you. Got the first time in your life you loved so much, you could die. Got the first time in your life you saw her, you could fly. Got the first time in your life you loved her, she loved you back. Got the first time in your life you felt alive. You better cry, man, cry, man. Only means you care. You better cry, man. You better love, man. You better love, man, love, man. Only means you share. You better love, man. You better cry, man. You better cry, man, cry, man. Only means you care. You better cry, man. You better love, man. You better love, man, love, man. Only means you share. You better love, man. You better cry, man. Don't give up the love around you. Don't give up on trying to heal up. Don't give up the feeling in you. Don't give up on trying to stand.
C'était Oman Jane sur France Inter.
La tête au carré, le club.
Depuis la prise de Palmyre en mai dernier, c'était l'un des monuments les mieux conservés de Palmyre. Le temple de Baal, joyau de la cité antique, dynamité par le groupe État islamique. Depuis la prise de Palmyre en mai dernier, les djihadistes menacent de tout détruire. Ils ont commencé par des mausolées en périphérie, avant de s'attaquer au musée, puis au temple. Les djihadistes considèrent les œuvres religieuses pré-islamiques comme de l'idolâtrie. En février dernier, le musée de Mossoul en Irak mis à sac. Les statues sont détruites à coups de massue et de marteau-piqueur. Quelques semaines plus tard, toujours en Irak, les sites archéologiques d'Atra et de Nimrod subissent le même sort.
Nous étions en 2015, les ravages de la guerre sur des cités appartenant au patrimoine mondial. Nous allons en parler dans le club de la tête au carré, toujours en compagnie de Sophie Neuville, Raphaël Aumont, Yves Hubelmann et Sophie Becherel. C'est donc votre coup de cœur, Sophie. Vous nous emmenez à l'Institut du Monde Arabe pour un voyage virtuel sur ces sites menacés. Vous êtes allé visiter l'exposition Cité millénaire.
Voilà, cette déambulation dont parlait Yves Hubelmann, qui est archéologue, président...
Architecte,
ouais. Et donc fondateur et président de la société Iconem, grâce à laquelle on a ces reconstitutions sous nos yeux. Expliquez-nous le point de départ de ce projet, puisque vous faites sauvegarde de patrimoine, œuvre de sauvegarde de patrimoine.
Oui, alors, moi, à titre personnel, j'ai commencé il y a 10 ans, en fait, sur cette thématique. Donc, j'étais comme vous dites, architecte, mais je travaillais avec des archéologues, effectivement, à l'époque, notamment beaucoup en Afghanistan. Et en fait, quand on travaille avec les archéologues, qu'on va, effectivement, dans les régions reculées pour aller... relever, identifier les sites archéologiques, on s'aperçoit qu'ils disparaissent en fait très vite et qu'ils disparaissent souvent dans une indifférence totale parce que c'est des régions qui sont assez peu visitées. Donc, d'une année sur l'autre, une route va être construite, par exemple, et le site qui était effectivement là, il est plus là. L'expansion urbaine fait effectivement que toute cette sédimentation archéologique visible dans le paysage, en fait, disparaît très vite. Et c'est sur ces observations que je me suis dit à l'époque, mince, il faudrait trouver, une alternative, au moins pouvoir conserver, l'image de ces sites qu'on ne peut pas vraiment conservé physiquement, malheureusement. On n'a pas de prise, en fait, face à la guerre, d'une part, mais aussi face à la croissance de population, l'évolution de ces pays, etc. Et c'est à l'époque que je me suis intéressé à deux technologies qui étaient très émergentes. Donc, d'une part, le drone, qui nous permettait de faire des photos aériennes assez facilement, en fait, sur des zones assez vastes. Et... les algorithmes, l'intelligence artificielle, pour résumer, grosso modo, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de traiter des images pour reconstruire de manière photoréaliste, en fait, des sites, mais dans l'espace numérique, dans le virtuel. Et donc, on a monté avec effectivement une toute petite équipe au démarrage, en fait, un protocole qui nous permettait de faire des copies numériques de paysages, de sites, d'architecture. Et on a commencé en Afghanistan, puis en Syrie, puis en Irak. Et on s'est aperçu que c'était utile, hein, parce qu'on nous demandait, les archéologues d'abord nous demandaient ça pour faire des cartographies, identifier les sites, les expertiser. Et après, on a eu malheureusement effectivement les gros, les conflits au Proche-Orient, les destructions idéologiques qui sont arrivées. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de proposer notre aide, d'abord gratuitement en fait, hein, aux archéologues syriens, irakiens, au moins pour les aider avec nos connaissances techniques, hein, pour au moins les aider à relever ces sites-là.
À quel moment vous êtes intervenu dans la guerre? Les destructions étaient déjà très avancées. Ce que l'on voit, c'est quand même des champs de ruines sur cette déambulation et ces images en trois dimensions.
Oui, alors on arrive toujours trop tard, mais toujours trop tard, c'est-à-dire qu'on essaye d'arriver dans les zones qui sont libérées, entre guillemets, hein, dans lesquelles il n'y a plus de combats. Donc on passe derrière, effectivement, les combats. Donc quand on est arrivé à Palmyre, par exemple, effectivement, les sites avaient déjà été détruits par l'État islamique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a profité en quelques jours. Donc on est arrivé quelques jours après la fin des combats, hein, c'est-à-dire les ruines étaient encore fumantes, quoi, et ouais. On avait encore effectivement les mines antipersonnelles un petit peu partout. Et on a décidé de tout scanner, en fait. Donc scanner le temple de Bel dont on parlait tout à l'heure, effectivement, qui avait été détruit, mais aussi le théâtre ou le tétrapile qui n'avait pas été détruit. Et à notre grande surprise, à la surprise générale, en fait, l'État islamique est revenu sur le site quelques mois plus tard et a détruit le théâtre et le tétrapile que nous avions du coup scanné au préalable. Donc c'est-à-dire qu'en étant très actif et très présent sur le terrain...
Vous voyez l'évolution en temps réel, ces sites se dégrader devant vos yeux.
Exactement. Et chaque mois, on recevait une nouvelle souvent triste, en fait, effectivement, d'un site qui avait été détruit, qui avait disparu. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est... En étant très présent sur le terrain, en faisant, disons, cette documentation d'urgence, hein, de créer une trace numérique, finalement, de cette disparition et être en mesure de la transmettre à la communauté scientifique, mais aussi aux générations futures, hein, qui n'auront pas la chance de visiter les sites comme nous, on les visite aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a été la cible de ces destructions? On voit dans l'exposition que, quelle que soit la confession finalement, ou quelle que soit la religion, visiblement tout ce qui est ancien a été visé.
Oui, alors bon, il y a différentes causes, hein, de destruction. Il y a la destruction idéologique, c'est celle dont on entend le plus parler.
De l'État islamique.
Exactement. Donc en général, effectivement, les soldats de l'État islamique s'attaquent aux monuments symboliques.
Hein. Donc là, c'est par exemple à Palmyre,
voilà,
en Syrie.
Donc ça peut être effectivement des ruines antiques, hein, parce qu'ils considèrent qu'effectivement, elles sont impies, quoi. Mais ça peut être aussi des mausolées musulmans, voilà, parce qu'ils sont chiites, voilà, des mosquées, des églises. En fait, ça touche un petit peu de manière assez générale, et même, y compris la mosquée Al-Nouri, hein, qui est la mosquée principale de Mossoul, qui a été détruite par l'État islamique lui-même, alors que c'est là, effectivement, qu'avait été proclamé l'État islamique par...
Oui, Mossoul était la capitale de l'État islamique.
Exactement, ouais. Exactement. Donc en fait, effectivement, donc les destructions idéologiques touchent effectivement tout type de monument à partir du moment où il est symbolique. Après, de manière plus générale, effectivement, on est dans des contextes de guerre, il y a des bombardements, il y a des combats, donc effectivement, les monuments qui font partie de l'architecture historique, hein, on pense effectivement au tissu urbain traditionnel de Mossoul, au palais d'Alep, malheureusement, ils ont subi, en fait, les bombardements. Hein, comme...
En quoi votre travail pourra aider les archéologues? Parce qu'on se dit, on a là des tas de pierres, ça n'est pas remontable, entre guillemets. Est-ce qu'il faudra reconstruire? Est-ce que ça pourrait être une trace, base pour reconstruire?
Oui, alors, d'une part, ce travail qui est avant tout un travail cartographique, c'est-à-dire avant d'être travail d'exposition d'images. Ouais. Hein, c'est d'abord un travail cartographique pour l'expertise. Donc, c'est-à-dire ces modèles 3D qui sont constitués de milliards de points en fait, qui sont objectifs en fait. Parce que on représente vraiment le réel. Bah, on s'en sert effectivement pour faire des plans, des coupes, des mesures. Hein. Ouais. D'abord pour évaluer les destructions, mais aussi pour certains sites archéologiques en fait, pour découvrir des nouvelles choses. Hein. C'est en étudiant les plans, les cartographies, hein, sur
les sites. Oui, un archéologue irakien ou syrien explique dans l'exposition que finalement, ça a mis au jour une nouvelle couche plus ancienne. Exactement. Ça, c'est pour les plus optimistes. Ils disent que la destruction laisse apparaître les couches d'avant.
Mais... c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on est dans des villes, dans des lieux où il y a une telle richesse sédimentaire qu'effectivement, on enlève une couche.
C'est pour rien qu'on les appelle les cités millénaires.
Exactement. Quoi. On enlève une couche, on découvre la couche qu'il y a en dessous et en fait, on redécouvre un patrimoine qu'on avait complètement oublié. Donc effectivement, il y a un aspect positif, mais c'est surtout effectivement à travers ces modèles numériques qu'on arrive à comprendre la complexité de cette sédimentation, qu'on arrive à comprendre effectivement les différentes civilisations qui se sont succédées sur ces lieux. Donc c'est d'abord, un outil, la cartographie, un outil d'investigation scientifique pour comprendre la richesse archéologique qu'on peut avoir dans un lieu.
Mais comme le demandait Sophie, est-ce qu'on peut aussi imaginer que ça aide à reconstruire? Parce que si j'ai bien compris dans cette exposition, on voit aussi des sites effondrés, écroulés, renaître.
Exactement.
On voit ce qu'ils étaient. Donc on a un plan pour peut-être les faire renaître.
Alors bien sûr, ça c'est le deuxième objectif de notre travail. Hein. C'est-à-dire qu'en étudiant un monument qui a été détruit, on en étudie précisément tous les blocs, tous les fragments qui sont au sol. Et avec ces fragments, on peut recomposer le monument, voir si on peut réutiliser ces blocs pour le reconstruire. Et ce qu'on a voulu faire dans cette exposition, c'est montrer les images des destructions, bien sûr, mais aussi des images de renaissance de ces monuments. Grâce aux technologies nouvelles, effectivement, on arrive à les faire renaître, entre guillemets. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un outil qui va être très précieux pour les architectes qui vont être en charge de restaurer ces monuments.
Une lueur d'espoir.
Oui, et l'autre côté positif, parce que cette exposition, il y a aussi des témoignages, et quelque chose de très très fort, c'est qu'on se rend compte que les populations qui n'ont pas pu forcément protéger, on le comprend, ces monuments, parce que c'est la vie quotidienne pendant la guerre, ont quand même pris conscience de ce que ça représentait que ce patrimoine immatériel, et que ça, c'était leur identité. Et on dit, un jeune homme dit, la tour Eiffel, les Parisiens, vous n'allez pas la voir, parce que vous vous dites, elle sera toujours là. Ouais. Et moi, je n'étais pas allé voir tel monument et je le regrette. Une dernière chose quand même sur mon coup de gueule, qui était les conditions de visite de cette exposition. Les gens sont absolument fascinés parce que le format est immense. On est immergé en fait dans ce que vous montrez. Néanmoins, les conditions ne sont pas bonnes parce qu'il y a trop de monde. Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que ça c'était attendu? Bon, c'est la Toussaint, beaucoup de monde, mais...
Alors oui, bon, effectivement, on est en période de vacances. Effectivement, mais vous faites bien de le dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a construit une scénographie autour de boucles vidéo assez courtes, de quelques minutes. Et en fait, les images, effectivement, sont tellement fortes,
hypnotiques,
que les gens restent en fait sur plusieurs boucles. Effectivement, ça crée
des écrans géants.
Voilà, ça crée effectivement des phénomènes un petit peu de
congestion.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Et puis il faut attendre longtemps pour pouvoir essayer les casques de réalité virtuelle et se promener vraiment dans ces univers où tout a été reconstruit, y compris le son, même jusqu'à l'odeur. Je crois
vieilles pierres. Alors là, effectivement, c'est un partenariat qui a été fait avec Ubisoft, en fait, la compagnie de jeux vidéo. Et donc l'idée, c'est effectivement de remettre les gens au cœur de ces lieux, en fait, que moi j'avais visité personnellement, donc je savais effectivement l'environnement sonore, tout, on a essayé de tout reproduire, mais c'est sûr qu'effectivement ces techniques qui sont complètement nouvelles, en fait, surtout dans le cadre d'une exposition, donc ça demande effectivement d'être mis en place. L'Institut du monde arabe, en fait, essaie de créer aussi des événements, des nocturnes, justement, pour désenclaver un petit peu. Après, c'est aussi une bonne nouvelle, ça veut dire que ça rencontre...
On se sent concerné.
L'attente du public. Et ce qu'il faut vraiment dire aussi, c'est que c'est une exposition qui est militante. Hein. On veut utiliser cette exposition pour justement militer sur cette problématique de la conservation de la mémoire. Et d'ailleurs, à Lima, Jack Lang est a aussi, enfin depuis longtemps, milite aussi sur ces thématiques-là. Il a été un peu à l'origine d'une grande fondation qui s'appelle la LIF, qui œuvre effectivement pour la préservation du patrimoine en danger, et l'UNESCO aussi, en fait, qui est extrêmement engagée dans cette problématique et qui a financé tout le travail sur Mossoul.
Merci Yves Hubelmann. Cité millénaire, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, à découvrir à l'Institut du Monde Arabe. C'est jusqu'au 10 février prochain. Essayez d'y aller quand il n'y a pas trop de monde pendant les périodes creuses. Merci Sophie Becherel. On vous retrouve tout à l'heure pour quelques autres rendez-vous. À venir dans la tête au carré, des mygales, des varans et des serpents, tous plus venimeux les uns que les autres. Lemon Ancest, c'était Charlotte et Serge Gainsbourg sur France Inter, la programmation musicale de La Tête au Carré est signée Thierry Dupin.
Le club sur France Inter.
Bud, je te présente mon ami le Black Mamba. Son venin neurotoxique est le plus efficace des poisons. Il agit sur les nerfs et provoque une paralysie générale. Le venin du Black Mamba tue un être humain en environ 4 heures si celui-ci a été mordu un doigt ou une jambe. En revanche, une morsure au visage ou sur le haut du corps peut entraîner la mort en moins de 20 minutes. La suite te concerne, écoute bien. La quantité de venin qui est libérée dans une morsure peut être gargantuesque. Si on ne dispose pas d'antivenin, 10 à 15 mg sont une dose fatale pour un homme. Alors que le Black Mamba injecte généralement au moins 100 et souvent 400 mg de venin par morsure à sa victime.
Extrait de Kill Bill pour nous mettre dans l'ambiance pour la dernière partie du club de la tête au carré avec autour de la table Yves Hubelmann, Sophie Becherel, Raphaël Aumont et Sophie Neuville, médiatrice scientifique au Palais de la Découverte à Paris, où on peut le voir, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, le Black Mamba dans une grande cage au centre de cette exposition Poison. Alors on peut y observer dans des terrariums une trentaine d'espèces vivantes telles que la mygale à genoux rouges, la grenouille singe, le crapaud sonneur oriental ou encore la vipère du Gabon. Tous ont en commun de produire de redoutables poisons. On y apprend beaucoup de choses sur l'intérêt des venins que produisent ces animaux, puis sur la façon dont ils agissent sur les organismes. Certaines espèces présentées sont vénéneuses, d'autres venimeuses. Quelle est la différence ?
Et oui, petite nuance entre les espèces vénéneuses et venimeuses. Globalement, on va considérer les espèces venimeuses comme étant des animaux uniquement, qui ont la possibilité pour certains d'inoculer le venin par morsure ou par piqûre, ou de faire perler le venin à la surface de la peau, comme c'est le cas pour certains amphibiens, comme la grenouille bleue d'Androbate dont je parlais tout à l'heure.
Ouais. Alors, il y a des animaux venimeux qui sont particulièrement dangereux, mais qui ne payent pas de mine. Hein. On n'imagine pas qu'ils puissent faire autant de dégâts. Quelques exemples. Vous m'avez parlé du cône géographique. qu'est-ce que c'est le cône géographique?
Alors le cône géographique, pardon, c'est un magnifique coquillage de forme triangulaire qui, en tant qu'escargot marin, est assez lent, mais arrive quand même à capturer des proies telles que des poissons, des proies plutôt rapides. Donc il a une arme redoutable. Il fait sortir une trompe de sa coquille qui est chargée de harpons venimeux. Et le venin qu'il injecte contient un certain nombre de toxines neurotoxiques, et notamment la conotoxine qui a été identifiée.
Et il peut tuer des êtres humains, ce
Ça peut tuer des êtres humains, effectivement.
Plusieurs centaines de morts, de victimes par an?
Oui, c'est les chiffres qu'on entend, effectivement, parfois, souvent par méconnaissance de la part des gens qui les manipulent sans se méfier.
On les trouve où? Pour savoir où est-ce qu'il faut se méfier.
Voilà. Alors, globalement, sur l'île d'Oléron, tout va bien. Non, ça va être plutôt dans l'océan Indien, l'océan Pacifique.
D'accord. Voilà. Alors, dans les océans, ils sont pas mal pourvus, hein, les océans. Il y a aussi la guêpe de mer, c'est une méduse particulièrement redoutable.
Ouais. La guêpe de mer, c'est une méduse qu'on va trouver en Asie du Sud-Est et en Australie, et qui peut provoquer des envenimations qui peuvent être mortelles pour l'être humain. En tout cas, dans 70% des cas, ça peut être le dénouement final.
Oui, le dénouement, le triste dénouement. Alors, des méduses, on n'en voit pas dans l'exposition. On voit des toutes petites grenouilles, mais vraiment minuscules. Limite, on les verrait dans la nature, on aurait envie de s'approcher. Alors, on les trouve plutôt en Amazonie, en Amérique latine. Elles sont redoutables, ces petites grenouilles également.
Alors effectivement, elles sont petites, très colorées, avec des couleurs vives et contrastées. Voilà, des rouges, des jaunes, des bleus, des oranges. Ça attire l'œil, mais c'est plutôt un signal d'avertissement pour prévenir.
On revient aux couleurs de Raphaël Aumont. Là, c'est la couleur signal, danger, attention.
Exactement,
danger.
Ne pas trop s'en approcher.
Mais si ces grenouilles s'échappaient de leur terrarium, pour être tout à fait honnête, et heureusement, là, on ne craint rien, parce qu'en fait, ce qui les rend toxiques, c'est ce qu'elles mangent, c'est ça?
Exactement, elles ne produisent pas elles-mêmes leurs toxines, mais elles la récupèrent dans leur alimentation en mangeant des insectes comme des fourmis ou des coléoptères.
Qui, eux, sont toxiques, pour
le
coup.
Qui, eux, sont toxiques. Et
elles recyclent.
Voilà, exactement. Donc, c'est une super astuce, quand même. et là, avec l'alimentation qu'on leur donne en terrarium, elles sont effectivement totalement inoffensives.
Ouais. Alors ça, c'est vrai pour les grenouilles, mais il y a quand même pas mal de spécimens qui sont réellement dangereux et venimeux. On se dit que pour faire une exposition comme ça, qui accueille du grand public, j'y étais hier avec vous, vous m'avez fait gentiment visiter, il y a plein d'enfants partout, c'était très nombreux, c'est la Toussaint aussi.
On se dit que vous avez eu peur d'aller.
Alors, moi, j'étais pas effrayé, mais je me suis dit, pour un musée comme le Palais de la Découverte, qui fait une telle exposition, il y a certainement des mesures de sécurité à prendre particulières quand même.
Effectivement, c'est un gros challenge pour nous de recevoir autant d'espèces venimeuses. Donc, il y a énormément de mesures de sécurité. De toute façon, en France, on est bien connu pour avoir justement une législation assez carrée là-dessus. Il y a par exemple des terrariums à double paroi, une équipe technique de soigneurs habilité pour manipuler et pour s'occuper de ces animaux-là. Et tout un tas de dispositifs qui sont faits pour rassurer le public. Ouais. Et voilà, nous-mêmes, on y travaille en toute sécurité.
Personne n'avait l'air inquiet. On vous fait une confiance absolue. On tourne tous autour de ce grand mamba noir qui est dans la plus grande cage, le plus grand terrarium. Tout le monde le regarde. Il y a cette vipère du Gabon aussi, très impressionnante, avec une tête triangulaire assez gigantesque, un corps très large. Elle aussi, elle fait beaucoup de dégâts, la vipère du Gabon.
Alors, elle peut effectivement envenimer des êtres humains, surtout qu'on va la trouver notamment au Gabon, en tout cas en Afrique de l'Ouest, dans des zones occupées aussi par les êtres humains. C'est souvent ça qui va rendre dangereux un animal, c'est pas uniquement la toxicité des molécules que l'on va trouver dans son venin, mais c'est aussi la fréquence de rencontre entre l'homme et l'animal. Et elle est camouflée, elle a la même couleur que les feuillages du sol. Et effectivement, si un enfant, par exemple, met le pied dessus, ça peut être très dangereux.
Ouais, Sophie Bécherel.
Pourquoi la nature a doté ces animaux de cette stratégie? Cette capacité stratégique.
Pourquoi sont-ils aussi méchants?
Alors, ils ne sont pas du tout méchants. Par contre, c'est un avantage adaptatif extrêmement précieux pour ces animaux, notamment quand les proies se font rares. Le fait de pouvoir d'être sûr de ne pas manquer sa prise, finalement, ça leur assure une survie en pouvant se nourrir facilement.
Ouais. C'est avant tout pour la nutrition, et ensuite on s'en sert pour se défendre, mais c'est avant tout pour se nourrir.
C'est ce qu'on amène effectivement comme information aussi dans l'exposition, c'est que chez la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui mordent, qui piquent comme les serpents, les araignées, les scorpions, etc., le venin va leur servir d'abord à se nourrir pour paralyser les proies, et dans un deuxième temps, secondairement, ça peut servir comme moyen de défense.
Ouais. Et c'est ce qui explique que pour beaucoup d'animaux, ce venin est très précieux. C'est vraiment une question de survie puisque c'est pour se nourrir. Et donc, il y a beaucoup de morsures sèches. Un serpent qui vous mord ne va pas forcément vous injecter son venin parce que vous n'en valez pas la peine finalement.
Exactement. Chez les serpents, chez les araignées, on va retrouver un certain nombre de morsures sèches. Donc, l'animal va mordre et l'attaque souvent sans injection de venin va suffire à détourner l'attention du prédateur. Et on le voit aussi chez les scorpions, même dans l'acte de prédation, ils attrapent leur proie avec leur pince, mais sans forcément inoculer le venin. Ouais. Ils l'utilisent vraiment en cas de réelle nécessité.
Et tous ces venins n'agissent pas sur les mêmes mécanismes. Hein. Ils nous font du mal, mais pas tous de la même manière.
Ils agissent effectivement, il y a des modes d'action très, très variés. On va par exemple présenter dans l'exposition les venins neurotoxiques qui vont agir sur les systèmes nerveux, alors des proies, mais aussi de l'être humain si c'est l'être humain qui se fait envenimer. Les venins hémotoxiques, donc qui vont agir plutôt sur le système sanguin. Les venins cytotoxiques qui, eux, vont agir sur différents types cellulaires et provoquer des destructions de cellules, en quelque sorte des nécroses.
Alors ce sont des substances très puissantes, mais justement, avec ces grands pouvoirs, on pourrait aussi s'en servir pour se faire du bien et pour soigner. Il y a là des nouveaux médicaments en puissance.
Et oui, ça c'est une notion qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on sait qu'un poison, en fonction du dosage, peut soit provoquer des réactions nocives ou au contraire être utilisé à des fins thérapeutiques.
Ouais. Quelques exemples?
Oui, bah par exemple, un exemple assez ancien qui est issu d'une plante qu'on appelle la digitale pourpre. On a identifié une substance qu'on appelle la digitaline dans cette plante, et ce depuis le XVIIIe siècle. Donc on connaît les effets cardiotoniques de cette substance, donc qui est utilisée actuellement pour produire des médicaments à destination des personnes atteintes de problèmes d'hypotension.
Et le mamba noir, ce gros serpent qui nous a fait si peur en début de partie, lui aussi, ça pourrait être une source de médicaments?
Ça pourrait, effectivement. Ouais. Dans le venin du mamba noir, on a identifié une substance qu'on appelle la mambalgine, qui a à peu près les mêmes effets que la morphine, en étant un peu plus puissante et sans provoquer d'accoutumance. Donc ce serait une solution effectivement pour trouver des alternatives à la morphine qui pose des problèmes avec les effets secondaires et notamment l'accoutumance, parce qu'on est obligé d'augmenter les doses au fur et à mesure de l'utilisation.
C'est aussi le cas pour un coquillage, je crois,
oui,
qui est déjà utilisé.
Le fameux cône géographique dont on a parlé tout à l'heure.
Ouais. Ouais. Donc là aussi de la morphine et qui ne provoquerait pas d'accoutumance aussi pour ce coquillage. Un crapaud qui produit lui aussi un venin, alors cette fois-ci c'est intéressant pour lutter contre les cellules cancéreuses.
Le crapaud de l'écheneau, oui, qu'on va trouver en Amérique du Sud. Et dans son venin, on a identifié des substances qui bloquent la croissance cellulaire. Donc ça pourrait être très intéressant d'utiliser ces caractéristiques dans la lutte contre le développement des cancers. Ouais.
Un gros lézard, le monstre de Gila, lui aussi, il pourrait nous faire du bien et pas que du mal.
Et oui. Un des lézards venimeux, il n'y en a pas beaucoup, mais avec le varan de Komodo, c'en est un. Le monstre du Gila, donc l'héloderme, lui, qui vit aux États-Unis, donc on le connaît dans les déserts chauds. Il utilise son venin justement pour capturer quelques rares proies et être sûr de ne pas les manquer. Et le venin est contenu dans sa salive, donc il l'injecte en mâchouillant ses proies. Et on a trouvé dans son venin des substances qui permettent de réguler les hormones mises en cause dans la gestion du stockage du sucre dans le corps. Donc stockage du sucre du sang vers le foie et relargage du sucre du foie vers le sang. Et pour les personnes atteintes de diabète de type 2, aujourd'hui, il y a un médicament qui est produit utilisant une substance synthétique issue de ce venin. Ouais,
grâce à vous, nous ne regarderons plus tous ces animaux de la même manière. On leur doit quand même aussi quelque chose. Merci Sophie Neuville. L'exposition Poison est donc à découvrir au Palais de la Découverte à Paris jusqu'au 11 août prochain. Et on termine, comme tous les vendredis, avec d'autres idées de sortie. Sophie Bécherel, quelques rendez-vous scientifiques que vous nous conseillez?
Pour ce week-end, oui, c'est la suite des Utopiales à Nantes. Oui. Ce festival de science-fiction a commencé mercredi, il dure jusqu'à dimanche soir. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il se propose de faire découvrir le monde de la prospective, de l'imaginaire et des technologies nouvelles. Il n'y a pas besoin d'être un fan de Star Wars ou de Valériane et Laureline pour apprécier la programmation qui est absolument foisonnante. Ah, cette année, le thème, c'est le corps. Donc la science, évidemment, comme les arts, ont exploré le corps. Il y a donc beaucoup de choses, je le disais, des rencontres avec des scientifiques, Roland Lehoucq, Étienne Klein, physicien au CEA par exemple, des tables rondes comme sur le thème prêter son corps, qu'est-ce qu'un cyborg, enterrer son corps, des auteurs de livres de science-fiction, c'est la meilleure librairie où il faut aller là, en ce moment, des auteurs de bandes dessinées, Marion Montaigne parle du corps de Thomas Pesquet dans sa bande dessinée, des projections de films, du long métrage, du court, du documentaire, là encore c'est fabuleux, des jeux vidéo, une démonstration de cosplay, bon, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, donc ça démarre à 9h le matin jusqu'à 23h.
Ah
Alors, ce soir même, il y a une nuit blanche du cinéma. Donc, tous les détails sur le site des Utopias, à retrouver sur la page de la TAC.
Voilà. Et ça se passe à Nantes.
À Nantes. À Toulouse, se poursuit tout le mois la résidence 1 plus 2 Toulouse. C'est un titre qui rapproche en fait deux mondes, celui de la photographie et les sciences. Toulouse, vous le savez peut-être, est la première ville française à avoir été choisie en juillet dernier pour être capitale européenne de la science. Et là, lors de cette résidence qui se rapproche, qui se rattache à ce label Capitale Européenne de la Science, eh bien, trois artistes ont planché sur le thème de l'origine manquante. Ces trois artistes sont Smith, Camille Carbonaro et Prune Phi. Alors, la première a travaillé sur la part introuvable de l'identité dans le cosmos. Camille Carbonaro sur les migrations italiennes et Prune Phi sur la diaspora vietnamienne. On peut aller voir leur travail à la galerie Barrès Rivet. Et enfin, à Auxerre, très court, le muséum et l'équipe Arscan d'archéologues du CNRS proposent une exposition Néandertal, un air de famille, pour savoir ce qu'on a de Néandertal en nous.
Très bien. J'en profite aussi pour vous rappeler que la conférence sur le cerveau et la mémoire présentée par Mathieu Vidard et Lionel Nakache, c'est mardi prochain. Donc, c'est dans une centaine de salles de cinéma partout en France. Elle sera donc diffusée en direct. Vous pouvez vous inscrire. Toute la liste des cinémas participants est à découvrir sur franceinter.fr.